Ici Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 30 juin des Apatrides Anonymes, votre rendez-vous bimensuel pour un regard alternatif sur les actualités internationales et nationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers et aux questions autochtones. Gros programme, effectivement. Je suis accompagnée de Simon à la régie. Va-t-il nous faire un coucou?
Un petit coucou? Allô? Coucou à Marie-Ève, un coucou à tout le monde.
Qui est à la régie, donc pour le moment, on va vous offrir une émission en duo, puisque Mathieu est en vadrouille.
Il passe la mop.
Oui, dans une contrée lointaine. Et écoutez, là, on devait avoir un invité pour la première partie de l'émission. On devait recevoir Monkey, artiste multidisciplinaire, s'il en est un, pour une longue entrevue, donc de 30 minutes, entrecoupée de chansons, de slam et tout ça. Mais bon, Monkey n'étant pas arrivé encore, on va... mettre nos billes dans un chapeau et les sortir au fur et à mesure qu'elles sortent.
Okay.
Et voir ce que ça donne. Non, on va vous faire notre contenu habituel qu'on avait prévu en deuxième moitié de l'émission, puis on verra si Monkey se joint à nous ou pas finalement. Donc, ce qu'on avait prévu, à part cette entrevue qu'on attendait avec impatience, il y a Simon qui va nous faire un tour des actualités internationales. Pour ma part, je vais revenir aussi sur trois dossiers concernant l'immigration au Québec et je vais aussi vous faire un petit agenda antiraciste. Principalement, en fait, pour vous proposer une sélection de documentaires qui seront présentés ces jours-ci dans le cadre de Cinéma sous les étoiles.
Cool, ça annonce l'été, ça.
N'est-ce pas? Oui, le retour du cinéma en plein air, ça fait du bien.
Ouais.
Alors, on va écouter quelques petites notes de musique et Simon, on va le retrouver de l'autre côté pour ses actualités internationales.
Eh oui. Est-ce que notre invité est arrivé?
Non.
Ah, OK, je croyais. Désolé. Donc, vous êtes pogné avec mes actualités internationales. Principalement frontalières aujourd'hui, surtout, vous allez voir, Algérie, Niger, Grèce, Turquie, Pologne, Biélorussie. Mais d'abord, Colombie, retour sur les élections historiques en Colombie. Mathieu nous en parlait il y a deux semaines. On était pratiquement à la veille du deuxième tour à ce moment-là. Et comme vous l'avez peut-être vu, la gauche a finalement remporté sa toute première victoire dans l'histoire de la Colombie. Marie-Ève n'applaudit pas. Ah.
Oui!
Donc, résultat, désolé Marie-Ève, là, je te mets au défi de réagir. Là. Gustavo Petro a obtenu les 50% nécessaires, ce qui lui a permis de battre Rodolfo Hernandez, le roi de TikTok.
Oui, c'est ça, c'est parce que je me demandais, je repensais encore à ce que Mathieu avait dit la dernière fois. Puis là, je cherchais son...
Il y avait plusieurs candidats qu'on connaît pas nécessairement, donc c'est sûr qu'on peut les confondre, mais c'était le roi de TikTok qui était au deuxième tour contre Monsieur Petro. J'aimerais souligner aussi l'accession à la vice-présidence de Francia Marquez, première personne afro-colombienne, pas juste femme, mais à occuper un poste aussi haut placé. C'est une militante de longue date en environnement et en justice sociale, dont les deux, Gustavo Petro et Francia Marquez, ont aussi été des militants anti-extractivistes. Le nouveau président, Petro, c'est l'ancien maire de Bogota et il est aussi un ancien guérillero. Merci, Marie-Ève. Donc, on peut s'attendre à un renversement en faveur du respect des accords de paix signés en 2016. En tout cas, il y a de l'espoir à ce niveau-là et que le précédent gouvernement d'Ivan Duque, qui est officiellement toujours président jusqu'à la transition, n'a pas du tout respecté, allant même jusqu'à faire craindre une reprise de la guerre civile carrément. Donc, si Petro veut vraiment mettre en œuvre les accords de paix, il doit bien sûr se maintenir au pouvoir. Il doit réussir à bien asseoir l'autorité de son gouvernement sur les énormes machines administratives, policières, militaires, paramilitaires, etc. de la Colombie, ce qui n'est pas donné d'avance. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, j'allais dire, de travail sur la planche ou de pain dans le travail ou de baie dans le chapeau. C'est la journée des expressions. On peut aussi présumer qu'un peu comme au Chili avec le nouveau gouvernement de gauche de Boric, bien, toutes sortes de manœuvres vont être mises en place pour nuire au bon fonctionnement du nouveau gouvernement, miner sa crédibilité dans l'opinion publique pour l'empêcher de réaliser ses réformes qui ne plaisent pas du tout à l'establishment colombien ou chilien dans le cas de Boric.
Bien, surtout que ça fait... c'est une quasi-première dans l'histoire du pays que la gauche...
Oui, oui. Puis ils arrivent, je parlais de machines tantôt, mais ils arrivent devant une société qui est contraire à leurs principes. Là. Donc, ce sera pas donné, c'est sûr.
Non.
Petro lui-même met la barre assez haute en affirmant que son nouveau gouvernement, qui va entrer en fonction le 7 août, sera celui de la vie, de la paix, de la justice sociale et de la justice environnementale. Donc, gros contrat. Sur les questions migratoires et frontalières, il y a déjà eu une conversation entre le nouveau président colombien et Maduro, le président du Venezuela. La frontière entre Colombie et Venezuela est pratiquement fermée depuis 2015 suite aux différends diplomatiques entre les deux pays. Et on évoquait finalement une réouverture complète à court, moyen terme. Donc, il n'y a pas encore d'agenda clair. La question des presque 3 millions de réfugiés vénézuéliens qui sont actuellement en Colombie, le sujet n'a pas été abordé directement, mais c'est certain que si les deux pays rétablissent leurs relations, la Colombie, ayant toujours été un très important partenaire du Venezuela, peut-être même le plus important, c'est sûr que ça va améliorer la situation et à moyen long terme avoir un impact sur la crise économique et sociale terrible que vit le Venezuela dans sa forme la plus critique depuis environ 10 ans. Ça, c'était juste un rapide résumé. On aura peut-être l'occasion de réinviter quelqu'un du PASC éventuellement pour nous en parler plus en profondeur parce qu'il y a vraiment des enjeux très locaux qui sont difficiles à saisir dans les grands titres qu'on peut lire actuellement. Algérie, Niger, donc on s'en va, on fait un grand bond. Une autre frontière qui est critique, on l'oublie souvent, mais l'Algérie et le Niger partagent une frontière qui est de presque 1000 kilomètres. Hausse considérable des expulsions à partir de l'Algérie vers son voisin du sud, le Niger. Depuis le début de 2022, 14 000 expulsions, ce qui fait plus de 2 000 par mois. On rapporte que de nombreuses personnes expulsées sont gravement blessées et traumatisées du fait d'avoir vécu des violences extrêmes. Il y a des femmes victimes de viols qu'on ship en plein désert. Plusieurs associations, dont Médecins sans frontières, qui est la plus vocale dans ce dossier-là, dénoncent le gouvernement algérien qui fait la sourde oreille sur les expulsions de masse qui sont non seulement inhumaines, mais illégales. On procède d'abord à des arrestations de masse. On amène les migrants en autobus ou en camion non climatisé, proche de la frontière, toujours très loin du point de départ, puisque l'Algérie, c'est immense, c'est plus grand que le Québec. Là, on les embarque, on leur dit de faire les derniers kilomètres à pied. Certains sont tellement en mauvais état de santé qu'ils en meurent. On les laisse souvent au lieu dit « point zéro » à 15 kilomètres d'Assamaka, la ville la plus proche, qui est une toute petite ville avec très peu de services et d'infrastructures d'accueil. Dans le sud de l'Algérie, on retrouve parfois des cadavres de migrants expulsés, morts de faim, de déshydratation, d'épuisement, de blessures qui n'ont pas été traitées, qui ont été livrés à eux-mêmes, comme je le disais, dans le désert, sans carte ni moyen de localisation. Ils se perdent et errent plusieurs jours à la recherche du village le plus proche. Beaucoup de morts sont jamais retrouvés. Il y en a aussi qui meurent entassés dans les transports. Bon, on les laisse simplement sur le bord de la route à ce moment-là. Dernière frontière dont je vous parle avant de passer peut-être à notre invité. Je ne sais pas si qui est arrivé finalement.
On va y laisser le temps. Après ton bloc, on mettra une pièce musicale qu'on avait prévue, puis après on le fera rentrer.
Parfait, fais-moi signe quand c'est le temps de passer à la pièce musicale parce que mon flow peut être ininterrompu.
Ah ouais, vas-y, go with the flow.
Pologne, Biélorussie, donc autre frontière très tendue. C'est un genre de no man's land militarisé dont l'approche était interdite par le gouvernement polonais depuis septembre dernier. Encore des morts dans le cas de cette frontière-là. Cette fois, des migrants morts non pas de déshydratation ou de faim, de faim peut-être, mais de froid. L'hiver passé, il y en a eu beaucoup. Du fait que les ONG les bénévoles qui vivaient en Inde ne pouvaient pas se rendre dans la zone interdite pour porter secours. Et les journalistes non plus ne pouvaient pas accéder aux forêts assez denses entre les deux pays pour constater et rapporter ce qui s'y passait. Début juin, le gouvernement polonais a annoncé la levée des interdits pour demain, le 1er juillet. C'est pas une levée complète. La zone interdite de 400 km de long va passer de 3 km de large à 200 mètres de large. Donc, ça va quand même faciliter la prise en charge des migrants qui sont souvent en mauvaise posture par des bénévoles, par toutes les associations qui essaient depuis des mois de se rendre sur place. Non seulement pour localiser les personnes migrantes et entrer en contact avec elles, mais aussi pour mieux documenter ce qui se passe sur le terrain, ce qui va permettre de calculer l'ampleur des besoins, planifier la logistique de l'aide aux migrants qui sont foulés massivement, sauf les Ukrainiens. Et on peut soupçonner Ukrainiens caucasiens qui, eux, ne sont pas refoulés, mais les autres sont pratiquement tous systématiquement refoulés. Et la Pologne poursuit actuellement la construction du mur qui, à terme, devrait se prolonger sur la totalité des 400 km de sa frontière avec la Biélorussie. J'aborde rapidement, très rapidement, la frontière Grèce-Turquie, autre situation critique. La frontière terrestre entre les deux pays, on entend plus souvent parler de... des traversées en mer, en fait, mais on oublie qu'il y a une frontière terrestre de quasiment, 200 kilomètres entre la Turquie et la Grèce. La Grèce qui affirme avoir empêché l'entrée de 40 000 personnes migrantes depuis sa frontière avec la Turquie, terrestre toujours. Moins de 1 000 auraient pu passer la frontière pour y déposer une demande d'asile. Combien parmi les 1 000 acceptés comme réfugiés, on ne sait pas. Vous avez sûrement entendu des chiffres plus élevés concernant la Turquie et la Grèce. Là, je parle seulement des traversées terrestres entre les deux pays, les traversées maritimes qui sont plus nombreuses que les traversées des traversées terrestres. Donc, une situation géo-kafkaïenne pour plusieurs migrants qui tentent de traverser le fleuve Évros. Certains, ceux et celles qui ne meurent pas noyés, évidemment, se retrouvent coincés sur des îlots au milieu du fleuve, repoussés de part et d'autre par les autorités frontalières des deux pays. Ils se retrouvent comme verrouillés sur des îles où il n'y a rien du tout. Souvent, on voit les pays se disputer des bouts de territoire. Ben là, c'est le cas inverse. Il y a des îles où se trouvent coincés les migrants. Les autorités grecques vont dire « Non, non, c'est aux Turcs, ça ne nous appartient pas. » Et les autorités turques vont dire « Ah non, cette île-là appartient à la Grèce. » Donc voilà pour la situation Grèce-Turquie. On va passer en musique et au retour, Marie-Ève va faire une première partie d'entrevue avec notre invité Monkey, qui est arrivé finalement. Donc, on reste dans la même région. Le band, c'est Lalalar, L-A-L-A-L-A-R. La pièce Abla Deme Lazim Olur, donc excusez mon turc. Puis si je me fie à Google Traduction, ça semble être un hommage à sa sœur et aux femmes en général. L'album s'appelle Bi Sinete Bakar. C'est le premier album sorti il y a quelques semaines d'un trio d'Istanbul qui existait seulement sur scène depuis 2018. Ils ont finalement fait le saut et décidé d'aller en studio et le résultat est vraiment très bon. Super punché, un peu rétro et électro en même temps. Il y en a qui disent que c'est du western spaghetti oriental.
Ouais, c'est pas fou.
J'ai lu ça, je l'invente pas. Donc plus sérieusement, c'est du funk rock psychédélique dans la mouvance du rock anatolien ou Anatolian rock, un mouvement qui date des années 60 et qui s'est jamais essoufflé. C'est en troisième position du palmarès World de Choc. On écoute Lalalar.
Akşamdan kalmış fuşta Çivi sökerdi çiviyi ama Tek forvet kalmış zulamda Allah Hayrola aradım yokmuş Adem baba bozdum yeminimi mecburen yine bindim kestim dala abla 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 her daim rötarda marka atma bari atma yine tek ağacım kel sokakta abla 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 her daim rötarda
bari atma. Yine tek ağacım kel sokakta. Abla abla abla, her daim rötarda marka. Atma bari atma.
Et oui, vous êtes toujours aux Apatrides Anonymes. On écoutait le groupe La 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 avec la pièce Abla Deme Lazem Olur. Écoute, je le dis le plus vite possible, étant donné que mon turc est à peu près aussi médiocre que celui de Simon.
Ben, le mien est excellent, en tout cas.
On reçoit aujourd'hui Monkey. Je vais faire une petite bio. Un artiste prolifique qu'on pourrait même qualifier de plus grand que nature. À la fois à cause du nombre ahurissant d'œuvres qu'il y a à son actif, 1300 murales dans le monde, sans compter les œuvres peintes sur des toiles, des corps et même des voitures, à ce qu'il paraît.
100%.
En plus d'avoir enregistré une quinzaine d'albums.
Oui, même plus que ça.
Et même plus. Mais aussi par les dimensions monumentales de ses peintures urbaines et par son engagement aussi dans la communauté muraliste ici et ailleurs dans le monde. Il vit de son art depuis l'âge de 17 ans, manière totalement indépendante, sans galerie d'art, maison de disques ou personne gérante, autofinancé, car il reçoit aucune commandite ou subvention directe.
Salut, incroyable, Monkey. Quelle belle introduction. C'est, tu sais, après...
T'as oublié Walt Disney qui l'a approché aussi pour...
c'est ça.
Ah, mais après, la quantité de... même justement, c'est ça que je suis content. Je suis content que vous avez choisi de mentionner des variables par rapport à moi qui sont différentes. Chaque entrevue, chaque personne voit et interprète un artiste ou une œuvre à sa manière à lui. Et donc, votre interprétation de moi est très très motivante, très élogieuse. Évidemment, si j'avais pas un minimum de travail sur moi-même, je pourrais rapidement tomber dans mon ego et me sentir plus grand que nature.
Ouais, c'est
quand
ça.
En vrai, nous sommes nature, on peut pas être plus grand que cette nature-là, mais cet effet-là d'impression que laissent sur nous les moments créatifs et les moments artistiques, je l'ai senti à multiples reprises et c'est ce que je souhaite pouvoir communiquer et faire vivre aux autres, donc voilà.
On parle de nature, ça me fait penser un peu à ton nom, parce que bon, j'ai lu ça quelque part, mm-hmm. mais sûrement que plein de gens ne le savent pas, mais parce qu'il y a un lien ici, vous allez voir. Pourquoi monkey, ça veut dire quoi?
Mais qu'est-ce que t'as entendu par rapport à ça?
Ben, apparemment que c'est monk pour moine.
Ouais.
Et I pour Einstein, la formule de E égale MC2 au carré?
L'énergie, exactement. C'est drôle parce que quand t'as dit Einstein, Einstein aussi commence par le E. Et dans le rap, on a beaucoup de AKAs. Les gars de Wu-Tang, ils ont 1000 noms, ils ont plein de AKAs et tout ça. Donc pour moi, le E a pris différentes significations à différents moments dans ma carrière. Au début, c'était même le 3. Donc au début, c'était Monk 3. Dans le graffiti, dans le hip-hop en général, quand tu vois des gens qui s'appellent KRS-One ou Tame-One ou Cope-2, le chiffre qu'ils vont porter va souvent avoir un lien avec où ils sont dans le lineage, dans les héritages ou les générations artistiques
les
de ce
vagues,
nom-là.
Ouais.
Exactement. Et donc, avant, j'étais Monk One, mais il y avait d'autres Monk avant moi à Montréal. Shout-out à Monk SVC. Et donc, mon nom est devenu Monk 3. Le 3, c'est un E à l'envers, le miroir, la réflexion. Je pensais un peu à tout ça. Et si je m'appelais Monk E, je pouvais avoir le One à nouveau. J'étais plus Monk 3. Et donc, c'est devenu Monk E One. Et donc, ça a été un peu les évolutions de comment le hip-hop m'aura rebaptisé.
Tu redeviens le patriarche avec ce patronyme.
Ben oui, je deviens le premier du nom. Premier du nom, patriarche et matriarche, I guess, parce que les femmes aussi utilisent ce principe-là. Mais moi, en tant qu'homme, je me présente comme un être et un créatif original, premier du nom. J'arrive quelque chose, on n'invente rien, on réinvente pas la roue, mais j'ai tout appris de manière souveraine dans ma relation à Dieu, dans ma relation à ma vie, à mon expérience. Et donc, pour moi, c'est important, et même dans mon parcours, c'est important de ne... Parce que la première chose que les gens te demandent, c'est où est-ce que tu as appris à dessiner aussi bien que ça? Et pour moi, c'est important d'arrêter d'aller à l'école pour que je ne puisse pas répondre « Ah, je suis allé à l'UQAM ». Non, moi, je suis allé à l'école de la vie, je suis allé dans ma relation avec moi-même et c'est ça qui m'a tout appris au complet. Et donc, je veux le droit d'être Monk E1, premier du nom, souverain à sa manière.
Ben, aux Apatrides Anonymes, on te l'accorde, ce
droit-là. Merci!
Doigt-là,
merci à vous.
Écoute, tu parles de ton parcours. Comment t'en es venu au juste à choisir la murale comme principe? principal type d'œuvre? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui t'attire dans cette formule?
Je pense qu'il y a plusieurs choses, et il y a eu plusieurs choses à différents moments dans ma vie, mais vraiment, ce qui m'a parlé au début, c'était cette énergie-là, c'est un lifestyle. Le hip-hop, c'était un lifestyle complet dans lequel je pouvais insérer plusieurs parties déjà existantes de ma vie. Je faisais déjà du dessin, je faisais déjà de la poésie, je faisais de la chanson punk rock. Et cette culture-là me permettait, dans l'ensemble, de tout y vivre sans devoir amputer une partie de moi-même. Et donc, naturellement, c'est sur les casquettes je voulais peindre, c'est sur les murs, sur les trains je voulais peindre. C'était ça l'imaginaire qui avait été créé pour moi dans la culture du hip-hop. Donc, je voulais reproduire ça à ma manière à 14-15 ans, à l'adolescence. Et puis, j'ai eu ce parcours-là avec moi-même. Le mur devient ton miroir. Tu peins toi-même, tu peins les différentes étapes de ta vie. Et donc, maintenant, si je continue à le faire, c'est que c'est comme une critique directe et un dialogue direct avec sa communauté. C'est pas une élite ou des gens qui choisissent même d'être là. Tout le monde est là, donc tu peux offenser des gens, tu peux être controversé, tu peux adoucir les mœurs, tu peux changer l'espace dans lequel
les gens... Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de médiation entre les gens, entre la personne qui regarde puis l'œuvre comme telle, comme c'est dans l'espace public.
Voilà. Et je pense que ça, c'est une révolution en soi. L'art, de manière générale, est tellement puissant qu'il a toujours été contrôlé par les rois, les gouvernements, les aristocrates. Et donc, d'avoir un mouvement qui atteint les plus hautes sphères de l'industrie, mais qui est un pirate. Moi, ouais. J'aime beaucoup la piraterie. J'aime beaucoup cette idée-là, du moins dans mon imaginaire, dans mon fantastique à moi, l'idée de désobéir, d'avoir une désobéissance civile, consciente et organisée. Pour moi, c'est quelque chose qui rajoute du piquant à ma vie. Donc, naturellement, le graffiti était le mouvement rockstar spirituel que mon époque, ma génération me permettait.
Un flibustier de la canette.
Voilà.
Hein, c'est bien dit, n'est-ce pas? Mais c'est quoi justement tu parles d'action directe, c'est quoi le lien entre tes murales ou en tout cas ton art puis les questions sociales ou politiques?
Ben, on est le social, on est la politique, les choix qu'on fait dans nos vies sont ça. Donc si on peut influencer nos manières de faire des choix, on a fait la plus grande spiritualité, politique, philosophie du monde. Donc, moi, j'essaie de peindre ma vie, j'essaie de peindre mon évolution, j'essaie d'être un témoignage le plus honnête possible, même si je le romance, même si je le dramatise, d'être une interprétation honnête de mon expérience de vie, des pensées qui me traversent, des émotions qui me traversent. Donc, je me rappelle plus la question.
C'était le lien entre le social et donc la chose, et donc les questions politiques.
D'être honnête avec moi-même me permet d'être honnête avec les autres le plus possible. C'est un objectif, un absolu à atteindre. Mais donc moi, le socialement, c'est ça. C'est je peins les photos de gens que je rencontre dans mes voyages. Je parle des histoires, des anecdotes de gens que je connais ou des miennes. Et les choix que je fais dans ma vie sont les plus grands choix politiques que je peux faire. Qu'est-ce que j'essaie de manger? Qu'est-ce que j'essaie de porter? Comment je décide de me comporter? Pour moi, c'est ça la vraie politique. Comment on gouverne notre propre juridiction à nous avant
ici
tout.
Ici et maintenant.
Oui. Ici et maintenant, moi, cet espace-là, il est à moi. Quand je dis que je suis souverain, je suis pas souverain au-dessus de personne. Je suis souverain, moi, ma personne, mon libre arbitre. J'ai le 100% pouvoir sur cette capacité décisionnelle-là. Et c'est une grande responsabilité qu'on a tous. Et c'est pour ça que notre monde va un peu mal. C'est qu'on était des adolescents avec des permis de conduire et des permis d'achat de boissons. Et on fait des folies en tant qu'humanité. Donc, pour moi, c'est important de me reposer des questions, de voir la situation et de l'appliquer professionnellement. Et mon art, c'est ma communication la plus profonde. Donc, je communique un peu, je transpire et j'évacue tout ce que je digère dans ma vie de tous les jours. Et donc, je pense qu'elle est là, ma vraie politique et ma vraie spiritualité. Beaucoup plus que quand je parle de chakra ou quand je dis que j'emmerde le go. Je pense que c'est vraiment comment que je vais traiter le Uber qui m'a emmené ici, comment je vais réinvestir mon argent, comment je vais traiter mes fans, mes supporters, comment je vais traiter mes collaborateurs. Ça, c'est de la vraie politique. Donc, tout le sens est dans le chemin lui-même, dans comment je vais faire mes collaborations, et ainsi de suite. Donc, plus que ça, je sais pas comment...
Le processus, c'est important.
Ouais, exactement.
Mais parlant de processus, j'aimerais ça que tu me parles d'un processus un peu en particulier. En mai, tu as réalisé Sous les ailes de Freddy, l'innocence de la nouvelle maison, ouais, qui est une murale dans l'arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc-Aix, pour commémorer la mémoire de Freddy Villanueva qui a été tué, assassiné par la police en 2008 alors qu'il avait 18 ans. Mm-hmm. Peux-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce mural-là?
La compassion. On manque de compassion, on manque d'empathie. On est de plus en plus divisé dans tout ce qu'on fait. Tout ce que l'on fait, c'est nous, c'est nos propres écouteurs, nos propres chauffages dans la voiture sur notre propre siège, nos propres téléphones, nos propres tout. Et donc, moi, tout ce que je peux faire pour avoir une action directe, spirituelle, politique, émotionnelle, intellectuelle, qui amène les gens vers la compassion, je vais choisir ces projets-là le plus possible. Je favorise ces projets-là toujours, 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 toujours. Et donc, pour moi, Freddy Villanueva rentre dans cette lignée de projets-là qui est de souligner des gens qui ont affecté ma communauté, de démontrer de l'amour fraternel, de la compassion. Donc voilà, pour moi, c'est une manière d'essayer de... Tu sais, même de manière, si on veut parler de manière individualiste, c'est ma manière à moi de nettoyer mon karma, c'est ma manière à moi de... les chrétiens et la génération avant nous diraient de nettoyer ses péchés ou peu importe, mais c'est ma manière à moi de libérer ma conscience, de savoir que malgré que je suis imparfait, quand j'ai la possibilité de faire un bon choix, de m'investir pour l'autre, d'être généreux, d'être un canal pour multiples personnes puissent se retrouver, multiples personnes puissent avoir un processus de guérison, ben je choisis d'être ce canal-là. Et ça pardonnera tous les moments où je serai égoïste ou je serai moi-même injuste ou peu importe.
Tu parles de ton rôle justement là-dedans. Je pense que tu fais du mentorat aussi. En quoi ça consiste? Pourquoi tu tiens à faire ça?
Ben, je pense que le mentorat pour moi, c'est l'école autodidacte. Donc l'école autodidacte.
T'en as fait au Sénégal, je pense, dernièrement.
Oui, de manière structurée. Mais je crois que depuis que je fais de l'art, j'ai une forme de désir d'échange avec l'autre, qui devient un mentorat quand j'ai peut-être un peu d'avance au niveau de mes techniques, de mon expérience ou de mon expertise sur un domaine ou sur un autre. Et ça, moi, j'ai eu tous mes techniques, tous mes talents, toutes mes expériences grâce à cet échange-là. Quand j'allais au Mexique peindre avec les Mexicains, quand je peignais avec mes grands frères, mes grandes sœurs québécoises, français, anglais, j'ai été sous un mentorat qui m'a permis de devenir l'artiste et la personne que je suis aujourd'hui.
Tu te vois comme un grand frère un peu?
Je suis un grand frère de plusieurs, même avec des gens de mon âge parfois, et même avec des gens plus vieux que moi parfois. Et là maintenant, j'ai même parfois plusieurs générations de grands frères-études avec les autres. Et ça, c'est magnifique. Je travaille une chanson présentement qui dit « Les élèves de mes élèves sont mes enseignants ». Parce que là, présentement, à travers Spectrax, un collègue dans Chromaship, qui est un peu mon petit frère, mon élève, d'une certaine manière, j'ai été mentor de son développement dans le hip-hop, même dans la vie en général, il est, lui, à son tour, mentorat clair et direct avec Emma, qui est une jeune rappeuse, beatboxeuse de, je dirais, 11 ans, mais je suis même pas sûr son âge.
Aïe, aïe.
Mais en tout cas, un enfant. Ouais. Et donc, cet enfant-là m'apprend. Elle m'apprend sur l'humilité. Elle m'apprend sur l'adaptativité. Et donc, les élèves de mes élèves seront mes étudiants ou sont mes étudiants. C'est une manière de rendre sensationnelle cette idée-là. Mais la vérité, c'est que mes étudiants sont mes enseignants. C'est juste que ça sonne pas aussi poétique. Mais d'avoir une relation à l'autre où tu enseignes tout, mais que tu as en même temps l'humilité d'apprendre tout, m'a construit complètement. It takes a village. Ça prend un village. Mm. On est tous interdépendants des gens qu'on rencontre et des expériences que l'on vit. Donc, pour moi, c'est important d'être hyper actif et investi, ouais, dans ce que je sculpte comme vie, comme réseau.
Y a-tu des artistes visuels, que ce soit là, dans street art ou pas, ou muraliste, ou peu importe le type d'art visuel, qui te... soit actuel ou passé, qui t'inspire peut-être particulièrement ou que tu trouves particulièrement
intéressant? Qui ont eu un espace d'inspiration, je te dirais des centaines.
Ouais, ouais.
Fait que la réalité, c'est ça. C'est qu'honnêtement, je pense que si on faisait une entrevue que pour ça, je pourrais prendre un 10 minutes.
Ah ouais.
Honnêtement, je pourrais prendre un 8 heures. Je vais pas exagérer, là, mais je pourrais prendre facilement une journée entière pour te faire une liste de tous les graffeurs et les peintres qui m'ont influencé.
Ouais.
Et les anecdotes qui vont avec le pourquoi ils m'ont influencé et comment je les ai rencontrés et ainsi de suite. Moi, j'essaie de m'entourer de ces gens-là qui m'inspirent. Donc oui, j'ai des inspirations comme Rembrandt, comme Dali, que j'ai jamais rencontré physiquement. Mais mes plus grandes inspirations vont réellement être les gens qui peignent auprès de moi depuis 20 ans.
Ouais, dans la rue. Puis,
exactement.
Puis peut-être, avant de passer en musique, j'avais une question, c'est ma curiosité. Parce que chaque fois que je vois une murale, c'est à ça que je pense, en fait. Je me demande, quand tu choisis de réaliser une murale, qu'est-ce qui te vient en premier? C'est-tu le sujet? C'est-tu le lieu que tu choisis en premier? Ou c'est un nourrit l'autre? Comment tu...
Majoritairement avec la musique et avec le muralisme. Je mentionne ces deux médiums-là précisément parce qu'il y a d'autres médiums qui fonctionnent différemment. Mais avec le muralisme que moi je fais, que j'appelle l'alchimiographie, et avec la musique que j'appelle l'alchimiophonie, je dois commencer d'un élément externe à moi. Donc la murale va commencer pour moi par le mur lui-même. Donc, parce que le mur devient la base même du brainstorm et de la conceptualisation qui va accueillir l'idée. Donc, si le mur est en deux parties, ou si le mur a un toit rose, je dois inclure ça et considérer ça dans ce que je vais conceptualiser. Donc, même chose avec la musique. Si je fais du slam, mon texte va venir en premier. Mais si je veux faire du rap, je vais choisir de la musique, je vais choisir des fondations musicales qu'on peut transformer, qu'on peut modifier par la suite, mais je vais avoir une chose qui va permettre d'accueillir mon inspiration.
Ah, merci, je suis enfin. Non, ben j'imagine que c'est différent aussi pour chaque artiste muraliste, mais je trouve ça le fun, en tout cas, c'est le lien entre les deux, là, puis... Fait qu'écoute, on va plonger un petit peu pour faire une transition, justement, dans ton univers musical.
Faisons ça.
On va écouter, nous, on a choisi la pièce Rembrandt, parce que je trouvais que ça faisait, justement, une transition entre les mots, puis qui est tirée de ton album, en fait, qui vient juste de sortir. Le lancement, c'était genre, il y a même pas deux semaines.
Exactement.
Les couleurs invincibles, pardon.
Les couleurs invincibles.
Conçu toi-même le graphisme et fait la pochette.
Tous les pochettes à vie. J'ai toujours tous mes albums. J'ai une vingtaine d'albums que j'ai produits ou coproduits. Et donc, tous les albums ont été peints par moi-même. Et donc, celle-ci ne diffère pas. Je n'ai jamais mon visage sur aucun album. Je crois que mes peintures parlent de manière beaucoup plus profonde qu'un portrait de moi-même. Et pour faire le lien direct avec Rembrandt, ce portrait-là que l'on se peint de nous-mêmes, comme Rembrandt, qui se peignait lui-même son autoportrait, je crois que c'est important d'avoir une introspection pour le peindre de manière juste et vraie, malgré les laideurs et les beautés qui nous habitent. Et donc, je suis très content que vous ayez choisi cette chanson-là. Allons écouter Rembrandt.
Un tableau crée l'illusion d'un éternel présent, car il n'a ni commencement, ni lieu, ni fin. Et bien dans un fracas qui nous laisse pantois, Rembrandt a dissimulé la même pendule mais tout à quand est dans la main. Derrière chacun de ces autres portraits, une idée lui qui avance inexorablement.
Forward forever, the river flows. I found foundations, asking what the pillars know. A ritual of passage, with every syllables deliver and told, like lead becoming silver and gold. Vive dans l'esprit sans se mettre adolescence, et recevoir en cadeau l'essence. Le fardeau des anges, guérir car les mots démangent. Relever haut les manches, même si les mots dérangent. Coûte que coûte, écoutant l'écho des conséquences. Vu que ce monde est dense, mais il faut qu'on s'élance avec les compétences d'une génération géante. Honte, gênante, car elle a enlevé les gants blancs. Comme un siècle, on s'entend sans faire semblant. Sagesse d'un centenaire sans perdre la joie de l'enfant. Il était grand temps de se repeindre un portrait classique comme Rembrandt. Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt. Peindre un portrait classique comme Rembrandt. Comme Rembrandt, comme Rembrandt. Classique comme Rembrandt. Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt. Peindre un portrait classique comme Rembrandt, comme Rembrandt, comme Rembrandt. Peindre un portrait comme Rembrandt. Mes barreaux de fenêtres, c'est des tic-tac-toe tracés par Picasso. J'ai rencontré Rembrandt peintant des pichassons. transforme mes projets en monnaie comme monnaie, je te le promets. Impressionnant l'impressionnisme que nous piratons. Les petits ratons qui racontent avoir franchi le doute. Car les horloges de Dali, en fait c'est le temps qui coule. La version basse de basse qui a style gentil doux. Au pied du mur, là où les banques s'y se trouvent, là où les banques y se trouvent, je fais un graphe rempli rouge. Je suis quand même un candidat fou. Frida Kahlo et Khalil Gibran qui sont en Orient. C'est relatif, est-ce relatif? Oui absolument. Même sans école, j'apprends les codes du temps. Comme la chapelle dont le plafond surprend. Mon 16 sera monument. Le monde tu prends en peignant tes tons sur blanc. Donc entre clair et sombre, d'où on jongle souvent. Peindre un portrait classique comme Rembrandt. Comme Rembrandt. Comme Rembrandt. Classique comme Rembrandt. 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 Peindre un portrait classique comme Rembrandt. Comme Rembrandt. Comme Rembrandt. Peindre un portrait comme Rembrandt.
Dans l'intimité de son atelier, le peintre contemple une dernière fois son visage, mais avec un semblant d'attendrissement. Il est enfin devenu l'enfant. L'une de ces trognes renversantes qui n'avait plus la volonté de rien cacher d'elle-même et qui s'était plu à interroger toute sa vie durant sa vie.
C'était Monkey. Est-ce qu'on m'entendait? Oui. Monkey, la toune Rembrandt de ton dernier album, Les Couleurs Invincibles.
Exactement.
Ça veut dire quoi, Les Couleurs Invincibles? Ça veut dire qu'elle frappe plus fort que les mots?
Ben, wow, c'est une bonne question, mais ça vient, en fait, faudrait que je me donne un petit peu en amont. En fait, l'idée, c'est que c'est la suite de l'album Le Gris Impérial.
Ouais.
Et avec Guyver Hammond, qui est un producteur français, l'objectif, c'était de faire une trilogie où on conceptualise un peu comme les Star Wars ou comme d'autres grandes trilogies, où tu as la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, en trois albums, on a donc établi la thèse avec Le Gris Impérial. On voulait démontrer qu'on vit dans un statu quo de conformité grise et ennuyante, même qu'on est tous sous l'idée d'un mensonge. On dit, tout n'est pas blanc et noir, il y a des zones grises. Et donc, le gris s'est placé sous forme de dictateur qui a pris position et a volé l'espace des couleurs, parce que entre blanc et noir, il y a les zones de toutes les couleurs. Il n'y a pas que des zones grises.
Il y a 50 zones de grises, je pense. Non, c'est pas vrai.
et donc l'idée, c'est ça, c'était d'établir que le gris, la conformité et un peu l'empire qui règne présentement. Et donc là, on établit l'antithèse, qui est les couleurs invincibles, qui est l'énergie humaine d'unicité, d'excentrisme, qui est préservée dans les sous-cultures, dans les communautés natives et dans la philosophie, et ainsi de suite. Okay. Donc, les couleurs invincibles veulent dire ça. Ça veut dire que l'humanité, que la vie ne meurera pas, malgré l'emprise incroyable et la croissance des machines, l'étincelle qui rend l'humain différent et excentrique, qui rend la nature incopiable, ne disparaîtra pas. Donc, c'est un peu ça l'idée des couleurs invincibles.
Et là, c'est un triptyque, donc la troisième, ça va être une question de... Parce que là, tu parles de gris, de couleurs, donc ça va être plus un les trois dimensions, je sais pas. Ou...
Tu y touches, et en plus, c'est drôle parce que ta collègue tout à l'heure l'a mentionné. C'est quoi le troisième?
Ah bon, j'écoutais pas, je suis désolé.
par accident. Et donc, elle non plus, elle ne sait pas qu'elle a mentionné. Mais donc, le troisième chapitre sont les couleurs invisibles. Et ça ne s'appelle.
C'est un lapsus. Elle a fait le lapsus.
Elle a fait le lapsus de la réponse de l'énigme. Et, mais en fait, ça ne s'appelle pas comme ça. C'est un synonyme des couleurs invisibles. Ça va s'appeler infrarouge et ultraviolet.
Ok, t'as déjà le titre.
Oui, exactement.
Donc, là, tu sors d'un album, puis toi, t'en produis deux par année à peu près depuis 15 ans.
Présentement, j'ai trois autres albums déjà terminés qui sont prêts à être présentés.
Ok.
Mais j'ai attendu, j'ai voulu mieux structurer, j'ai voulu attendre un momentum qui était mieux pour moi. Je me sentais sous-aimé et sous-représenté. Dans l'industrie musicale. Okay. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une pause. J'ai continué à voyager, j'ai continué à peinturer. Et je sors un album par année depuis 20 ans environ.
Ouais, moi j'avais calculé 13 titres, mais tu disais que c'était plus. Non, mais, 14 albums qui sont sur ton SoundCloud. En tout
c'est
cas,
ça, exactement. Mais il y a d'autres albums comme les albums KSXC qui sont pas sur mon SoundCloud à moi. Un album qui s'appelle Pérou Bravo que j'ai fait au Pérou. Il y a comme d'autres projets, le projet End of the Week Uganda. C'est des projets que j'ai été directeur exécutif, producteur exécutif de ces projets-là, mais que on a choisi de les pousser dans leur propre avenue. Tandis que les 13, les 14 projets qui sont sur ma page Spotify, c'est les 14 projets qui sont comme, que je suis producteur, et qu'on a choisi de les sortir, à travers mon réseau à moi.
Qui sont plus officiels,
ou, c'est les celles que je suis producteur plus officiel, ou plus unique.
Ouais, parce que ça a l'air d'être un peu, pas compliqué des fois, mais t'as beaucoup, beaucoup de collaborateurs.
Énormément.
Quand même. Il y en a un qui revient, oui, ben d'ailleurs, la liste est assez impressionnante, qui j'avais noté, dont, ben Corias, Maybe Watson, Bougat, Impost, Esmeralda, Connaisseur, Morse Attack. Il y en a un qui revient tout le temps, qui est
Myriam Sassi.
Myriam Sassi, ben il y en a un qui est même collé sur chacun de tes titres là, en plus. C'est je sais pas si je prononce bien, Guyver Hipman.
Guyver Hipman, en effet.
Ok, lui c'est vraiment ton alter ego.
Non, en fait c'est sur différents projets, je coproduis avec différentes personnes. Okay. Et ça sur ce projet-là, c'est notre duo album où lui il s'occupe de composer la musique et moi je fais tous les lyrics et tous les voix. Et donc et ça c'est notre deuxième album à deux, c'est la trilogie qu'on fait, c'est moi et Guyver Hipman ensemble. On a fait le Gris Impérial en 2015. On vient de sortir en 2022 Les Couleurs Invincibles. Et sûrement qu'en 2023 ou 2024, on va sortir
Les Couleurs
Infrarouge et Ultraviolet.
Les Couleurs Invisibles.
Exact.
Voilà, c'est ça.
Et donc, oui, lui, il est complètement collaborateur sur ce projet-là. Mais sur plein d'autres projets, il ne met pas main à la pâte. Okay. C'est vraiment d'autres projets que je produis avec d'autres collaborateurs dans mes voyages.
Mais il n'y a pas nécessairement de manière systématique de procéder. Des fois, ça peut être pour les beats, ça peut être pour les paroles ou tu composes entièrement tes paroles?
Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est moi qui...
C'est le maître des mots, là, finalement.
Ben, c'est là où
M-O-T-S, là.
Ouais, exactement. Ben, c'est là, je dirais que c'est là où j'ai mon expertise la plus grande. Je suis devenu, conséquemment, je suis devenu producteur et réalisateur et co-réalisateur et ainsi de suite. Mais là où mon talent, il est, c'est en tant que poète, je pense. Je suis un meilleur, parce que sinon, je ferais moi-même ma musique, hein. Si j'étais un bon musicien, je pourrais composer ma musique, mais non, je crois que mon talent, il est vraiment au niveau de la poésie, et donc, je choisis de m'entourer de gens qui sont des gens qui composent et qui créent de la musique, qui m'inspirent à être dans mes powers, dans mes forces.
Mais au-delà qu'il faut que ça fitte, que la structure fitte avec la structure de tes textes, t'as quand même un droit de regard. J'imagine que t'as quand même des influences musicales par rapport à d'autres, ou même un style. Qu'est-ce que je sais pas si t'es capable de te définir. Tu parlais de Wu-Tang Clan tantôt.
Ben, j'ai différents styles, tout dépendant du projet auquel je touche. Mais là, dans mes derniers projets, c'est majoritairement du boom bap ou du new bap.
Ok. Est-ce que tu peux pour les gens qui sont moins familiers?
Le boom bap, c'est boom bap, boom 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 bap. C'est le rap à l'ancienne, c'est le rap des années 80, le rap des années 90. Okay. Et après ça, on a eu la vague du double time avec les influences du sud à Atlanta, avec les Outkast, avec les Bone Thugs and Harmony, qui faisaient du double time où tout est plus rapide, c'est des flows différents.
Quasiment breakbeat des fois.
Et donc maintenant, dans toute la vague de Drake et tout ça, ça a été vraiment une vague où ce n'est plus du boom bap qui règne et c'est plus de la trap ou de la drill ou même de la pop parfois. Et donc mais moi je dirais, même si j'ai fait tous ces différents genres musicaux là, j'ai adapté ma voix à tout ça. Là où je suis à mon meilleur, là où je suis le plus confortable, c'est dans le boom bap, dans le new bap, dans voilà, dans le rap à substance.
La pièce qu'on a entendue, Rembrandt, qui était plutôt lente, sombre, appuyée, ça, ce serait dans le...
Tout l'album est du boom bap.
OK.
Donc, tout mon album, Les Couleurs Invincibles, est une forme de boom bap, sauf la dernière chanson. Je crois que la 13e chanson, c'est un outro qui a pas de drum, c'est comme un peu de la flûte de pan et tout ça. Et donc, cette piste-là, on pourrait pas vraiment dire que c'est du boom bap, ce serait peut-être plus du slam, mais il est vrai que... Ah, mais c'est vrai aussi, j'ai deux pièces de slam, en fait. Donc, sur les 13 chansons, Les Couleurs Invincibles, j'aurais la chanson numéro 3, Goutte de sang, qui est du slam, et la chanson numéro 13, qui serait aussi du slam. Mais les autres chansons, je pense que ce serait, on pourrait qualifier ça de new bap ou de boom bap.
OK, on prend des notes. On va faire un organigramme
des styles. Des styles et des branches, exactement.
Voilà, ça peut être assez complexe. Ça
c'est
peut
vrai.
Se recouper quand même beaucoup aussi.
Aussi.
Le temps file, mon Dieu. T'étais dans quel état d'esprit pour la composition des textes puis des musiques du dernier album?
Tellement de choses. Les textes ont été écrits à moitié quand j'étais en confinement en Ouganda. Donc, il y a beaucoup de textes. Ça a été des réflexions.
Confiné en Ouganda, juste ces trois mots-là ensemble, c'est déjà quand même particulier.
Ouais, donc, pendant six mois, moi, j'ai choisi d'être en Ouganda pendant six mois. Lorsque la pandémie commençait à éclater en Amérique du Nord et en Europe, c'était pas encore arrivé en Afrique. Et donc, moi, j'avais signé un contrat avec NBS pour un an, qui est la télévision nationale en Ouganda. Et donc, j'avais mes pièces et ma musique d'un album qui s'appelle Suffer With A Smile On, qui est mon dernier album avant celui-là, qui est un album plus afro-pop que j'ai fait avec Zex Bilanji. Et donc, j'avais un an de promotion, un package deal promotionnel avec la télévision ougandaise. Et donc, beaucoup des textes ont été écrits pendant que j'étais en Ouganda sur mes réflexions sur le Canada, sur la crise globale et tout ça.
Ouais, on sent beaucoup de thématiques un peu sous-jacentes des fois, mais c'est vraiment c'est très intéressant.
Merci beaucoup.
On va te laisser le micro... Ben, t'as déjà le micro, mais on va te laisser pour nous faire un petit slam qui, je crois, est sur ton dernier album.
Wow!
Si tu le feel.
Ouais, je le feel. Il faut juste que je m'assure que je m'en souviens.
OK.
Mais sinon, je vais improviser. J'improvise même mes slams.
Ben, sinon, en attendant, peut-être nous dire, est-ce que t'as des dates de performance qui s'en viennent? Ou des...
Oui, il y a plusieurs trucs qui s'en viennent. Hein. Le 15 juillet, je suis à Drummondville pour un festival. Je vais être à Toronto, à Hamilton, après, en juillet. Mais laisse-moi entrer dans ce slam.
Je te laisse entrer.
Si je crie « J'existe !» C'est pour les miens qui ne parlent pas fort. Je me demande combien de gouttes de sang a coûté chaque dollar. Il y a l'art de vivre et il y a l'art de voir trois yeux car tout n'est pas visible par le corps. Fascinant comment le mot « fashion » et « fascine » ont la même racine que fascisme. Vaccin vient de vache, sache où se cache le bétail que l'on vaccine. Ma maxime, c'est merci la science pour vos avancements, mais pendant ce temps, une science en débalancement a appuyé l'esclavagisme pendant 400 ans, comme par enchantement. Mon instinct et mon destin se soudent. Au-delà du lavage de cerveau, que procurent certains bains de foule, je graffe ma planète pleine de fougue, sans oublier le sens d'y vivre, car parfois la désobéissance civile, c'est de l'obéissance divine, me permettant de crier « J'existe !» Pour les miens qui ne parlent pas fort, so dites-moi, combien de gouttes de sang a coûté chaque dollar?
Yo! Je suis vraiment... Ça avait du...
T'es pas juste un alchimiste, un orfèvre. Mais chaque mot, chaque phrase, tout est tellement bien ciselé, puis wow. Ça vient nous chercher aux tripes. Je suis flabbergasté.
Ben, tant mieux. J'aime faire vivre une expérience. C'est un truc qui est stressant et qui est pas toujours évident, mais c'est la vie qu'on a choisie en tant qu'artiste, et je suis heureux que je suis pas devenu un has-been. Je suis heureux que l'inspiration ne m'ait pas quitté. Je suis heureux d'avoir plusieurs décennies de pratique et de toujours avoir des meilleures idées, des idées actuelles, des idées senties, vraies, profondes, humaines. Et la plupart du temps, ils viennent des autres. Ces idées-là viennent de ma capacité à observer l'autre et à ce que l'autre choisisse de me donner un bijou personnel à lui. Et donc, cette poésie-là est remplie de toutes mes expériences de vie. On n'est pas créé que de nous-mêmes. On est créé de tout ce qu'on choisit de vivre et de tous les gens qu'on choisit et qu'on ne choisit pas d'avoir autour de nous. Donc, je suis très heureux de vous avoir, vous deux, autour de moi pour ce moment aujourd'hui.
On est très heureux de t'avoir eu Monkey One pour toujours. Monkey One. Et on espère qu'il y aura des Monkey 2, 3, 4, 5, 6.
Je l'espère.
Des petits Monkey.
Je l'espère.
Des Monkey partout. Yes. Fait qu'écoutez, on s'en va en musique. Merci encore, Monkey.
À
tu reviendras nous voir. On aurait 1000 questions pour toi.
Avec grand plaisir.
On va écouter le band de Saint-Martyr, la toune Chien de garde. Donc, Marie-Ève, est-ce que tu es prête à nous partir ça? On y va, Saint-Martyr, Chien de garde, sur choc.ca.
Merci à vous tous.
Oh!
Alors, c'était le groupe Saint-Martyr avec la pièce Chien de garde. Saint-Martyr qui était anciennement les Martyrs de Marde qui se sont rebaptisés en Saint. Cette toune-là, Chien de garde, mettait en vedette entre autres Rox Arcan de Enfants Sauvages et Kid Kuna. C'est un premier extrait d'un album à paraître à l'automne et si on a bien compris, l'album devrait s'intituler Évangéliste incendiaire. En tout cas, on a hâte de voir des dates de concert pour cette formation.
C'était très bon.
Et puis moi, ben je vais vous parler d'immigration au Québec. Je vais essayer de pas trop vous casser les oreilles avec ça, mais bon, on a quand même un peu de contenu à vous donner. Depuis plusieurs semaines, voire mois, le gouvernement Legault répète que la capacité d'accueil du Québec est limitée à 50 000 personnes immigrantes par année. On se demande toujours comment il arrive à ce chiffre-là. Eh bien, il semblerait que le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, n'est pas du tout en mesure de fournir une seule étude qui soutient cette affirmation-là. C'est du moins ce qu'a constaté Radio-Canada, à qui le MIFI a envoyé deux documents, soit un cahier de consultation qui a servi pour planifier les seuils d'immigration en 2019 et un portrait statistique la même année. Mais aucun des deux documents ne montre que le Québec est incapable d'accueillir plus de 50 personnes immigrantes par année. Le MIFI se défend en disant qu'il utilise plusieurs indicateurs comme l'écart entre le taux de chômage des personnes immigrantes et des personnes natives, l'accès au logement, l'offre de francisation et les services d'intégration en région, etc. Mais il y a Anne-Michèle Meigs qui est ex-directrice à la retraite de la planification et de la reddition de comptes au MIFI qui affirme qu'on n'a jamais pu faire de lien direct entre le marché du travail et le nombre exact de personnes qu'on devrait accueillir chaque année. Elle dit aussi que l'estimation de la capacité d'accueil est, je cite, assez arbitraire et qu'il n'y a aucun consensus au sein du ministère. Elle rappelle aussi que quand le Québec se fixe une cible de, disons, 50 000 personnes immigrantes par année, il s'agit seulement de nouveaux arrivants qui obtiennent leur résidence permanente et qui, bien souvent, sont déjà en sol québécois. En incluant les immigrants temporaires, donc il y a beaucoup plus que 50 000 nouveaux arrivants par année au Québec. Je vous rappelle qu'il y avait une consultation sur les seuils d'immigration qui devait normalement avoir lieu cette année, mais le gouvernement a préféré la reporter à 2023, évidemment, en raison des élections provinciales qui vont être déclenchées à la fin de l'été. Sinon, on voit aussi que le MIFI resserre ses règles pour les étudiants et étudiantes internationaux. À l'initiative du gouvernement Legault, Québec et Ottawa ont décidé de revoir l'accès au permis de travail post-diplôme qui est délivré aux étudiants et étudiantes étrangers après leur formation, puis qui leur permet là, de rester puis de travailler plusieurs années au Canada. Le Québec est en fait la seule province qui octroie ce document-là après la réussite d'un diplôme d'études professionnelles ou d'au moins 900 heures ou encore d'une attestation d'études collégiales. Donc, dans les faits, immigrer au Canada après avoir réalisé une formation courte dans un collège privé non subventionné au Québec sera plus possible à partir de 2023. Toutes les personnes qui ont complété leurs études avant cette date-là vont pouvoir avoir accès au permis. Mais après ça, seulement les personnes diplômées d'un programme d'études subventionnées vont pouvoir y avoir accès et donc éventuellement obtenir une résidence permanente. Faut savoir que la possibilité d'un tel permis était vraiment un des arguments promotionnels de plusieurs établissements non subventionnés et de firmes de recrutement aussi qui sont dans le viseur du gouvernement du Québec depuis plus d'un an. Parce que, si vous vous le rappelez bien, il y a la hausse massive d'étudiants et d'étudiantes d'origine indienne au Québec et certains problèmes liés à l'enseignement avaient fait les manchettes en 2020, ce qui avait amené le gouvernement québécois à lancer une enquête, qui aurait confirmé des stratagèmes douteux dans la venue de ces élèves-là. Faut savoir que ces derniers payaient près de 25 000 $ pour suivre une formation courte, exclusivement en anglais, et qui donnait accès à ce permis de travail-là. Par la suite, ben, bon nombre d'entre eux pouvaient quitter le Québec pour s'installer, par exemple, en Ontario, ce que déplore, évidemment, le gouvernement québécois. Mais juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, selon les chiffres qui sont fournis par Ottawa, le nombre d'étudiants et étudiantes étrangers qui ont bénéficié d'un permis de travail post-diplôme après avoir fréquenté un établissement non subventionné au Québec a vraiment beaucoup augmenté. Pour la période 2016-2018, il y en avait près de 4 900. Mais là, en 2019-2021, le nombre de permis a bondi à 11 500. Et dans le même temps, le nombre de collèges privés non subventionnés a sensiblement grimpé aussi. Il y en avait 28 en 2015 et en 2020, on était rendu à 49. Donc, c'est sûr qu'à 25 000 $ par cours, par étudiant, c'est assez lucratif et ça donne le goût de se lancer dans la business des diplômes. Mais Jean Boulay a beau affirmer que les étudiants internationaux sont un potentiel extraordinaire pour le Québec. Il dit que souvent, ils viennent ici, s'installent, intègrent notre communauté ou notre marché de l'emploi. Fin de la citation. Dans les faits, certaines décisions du MIFI vont pas du tout dans ce sens-là. Le ministère bloque d'ailleurs l'arrivée d'étudiants et étudiantes étrangers censés venir faire un stage dans des résidences pour personnes âgées ou personnes avec un handicap en région. Le Devoir a dévoilé le cas d'un exemple en particulier, celui du cégep de Saint-Félicien au Saguenay, qui a mis sur pied un programme d'attestation d'études collégiales en intervention et travail social avec une spécialisation en ressources intermédiaires. Ce programme-là, il se fait en partenariat avec une école en Tunisie. Et le diplôme permet, entre autres, aux Tunisiens et Tunisiennes d'avoir accès à une formation de qualité, mais en n'ayant pas à assumer le coût de milliers de dollars en droits de scolarité que doivent normalement payer les étudiants étrangers qui viennent au Québec. Mais là, le problème, c'est que alors que les premières cohortes avaient réussi à venir faire un stage ici, il y a une nouvelle interprétation de règlement du MIFI qui a conduit au refus du certificat d'acceptation du Québec de plusieurs de la vingtaine d'étudiants et étudiantes qui devaient venir ici en début d'année. Bref, tout ça pour dire que ce que ça fait, dans le fond, le MIFI, lui, justifie sa décision en disant que, en fait, les personnes concernées viennent pas étudier, mais viennent travailler parce que c'est dans un milieu de travail. Mais pour Bernard Renault, qui est Bernard Renault, qui est conseiller pédagogique à Saint-Félicien puis qui est à l'origine du programme, il dit qu'il considère que les fonctionnaires du ministère interprètent mal le programme parce que c'est comme s'ils considéraient que ils reconnaissaient pas en fait les cours pratiques, comme si il fallait être assis dans une classe pour être étudiant. Et que sinon, c'est du travail. Donc, on va suivre ça dans les prochaines semaines. C'est clair qu'il va y avoir d'autres cas comme ça, évidemment. Bref, on prend une petite pause musicale et on doit malheureusement se diriger vers la fin de l'émission.
Est-ce que Jean Boulay dirait n'importe quoi? Allez, Marie-Ève, conclue.
Moi, je ne mettrais pas cette affirmation au conditionnel. Je dirais Jean Boulay dit n'importe quoi.
Ah, je posais la question.
Alors, écoutez, voilà. Bon, je devais vous faire des suggestions là, dans le cadre de Cinéma sous les étoiles, mais bon, le festival se poursuit de toute façon jusqu'au 2 septembre environ. Donc, on pourra vous en faire là à un autre moment pour à la prochaine émission, par exemple. Mais vous pouvez aller consulter la programmation directement, taper Cinéma sous les étoiles dans votre engin de recherche et puis vous allez voir la programmation. C'était lancé ce soir, d'ailleurs. Au parc, je me souviens plus trop quel parc, au parc Baldwin, donc vous avez encore le temps. C'est jusqu'à 22h30 ce soir, donc vous pouvez vous y rendre. Alors, je vous rappelle, c'était notre émission pour aujourd'hui. La fin a été un petit peu rapido, mais bon, On voulait laisser toute la place à notre invité. Merci, Simon, pour ta solide co-animation.
Merci, Marie-Ève, pour ta solide co-animation aussi et à notre entrevue conjointe avec Monkey.
Ben aussi. Oui, encore merci d'ailleurs d'avoir été si généreux de son temps et de ses paroles. On vous invite, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer son album Les couleurs invincibles chez votre disquaire indépendant préféré. Je vous rappelle que vous pouvez nous entendre sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado, toutes les émissions que vous avez manquées, en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à patridesanonymes@commercialresist.ca. Suivez notre page FB. On va se laisser en musique avec la pièce Side Effect de la guitariste new-yorkaise Mary Halvorson. C'est tiré de son album Amaryllis, qui est paru en mai et qui occupe la 7e position du palmarès jazz de Choc. Il s'agit d'une suite de 6 pièces jouées par son nouveau sextet que j'ai pu voir en concert au Festival de musique actuelle à Victoriaville en mai dernier. J'espère que vous apprécierez autant que moi. On vous souhaite une bonne soirée.
Oui, on va être avec Mathieu dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, ouais. Bon, eh ben, oui. Eh oui, il sera de retour. Okay. Alors, bonne soirée.
Bonne soirée.